Et en ce dimanche, à la une des hebdomadaires français cette semaine, Winter is coming.
L'hiver arrive en France et l'on se dirige vers un Noël sous tension, titre la Tribune dimanche. Le spectre de la grève refait surface du côté des agriculteurs, des fonctionnaires et des cheminots. Va-t-on revivre, s'interroge la Tribune dimanche, une fin d'année comme en 2022 avec une France paralysée, des trains annulés, des milliers de voyageurs ne pouvant pas rejoindre leurs proches pour les fêtes. Dans l'hebdomadaire, le président du groupe SNCF Jean-Pierre Farandou en appelle au sens des responsabilités des cheminots au moment où la France connaît une situation économique compliquée. Un constat dressé aussi par Marianne qui voit réapparaître le spectre du chômage de masse. Le magazine décompte 183 défaillances d'entreprises par jour, des fleurons nationaux comme Auchan et Michelin licencient. Et avec un déficit à 6% du PIB, le gouvernement se trouve dans l'impossibilité, selon Marianne, d'intervenir massivement, comme par le passé, lors du Covid notamment, pour colmater la brèche avec de l'argent public.
Et lui a jeté un froid supplémentaire après sa victoire. Donald Trump de retour au pouvoir aux États-Unis.
Et puisque de nombreuses analyses ont déjà été écrites pour expliquer cette victoire et ses éventuelles conséquences, pourquoi ne pas revenir tout simplement à l'origine du mal ? Paris Match retrace la carrière de ce gamin né dans le Queens à New York juste après la Seconde Guerre mondiale en 1946 et qui rêvait de gloire en regardant au loin les hautes tours de Manhattan. Son père, à qui il n'avait d'ailleurs pas peur de répondre, a fait fortune en construisant des HLM à Brooklyn, rappelle Paris Match, mais Donald Trump vise beaucoup plus haut et veut faire partie du grand monde qui vit en vase clos et le regarde de haut. Il devient donc un mania de l'immobilier avant de frôler la banqueroute, puis d'accéder finalement au sommet de la célébrité en participant à l'émission de télé-réalité The Apprentice. La suite, on la connaît, élu président des États-Unis en 2016, avant un échec en 2020, suivi de l'invasion du Capitole, puis sa récente victoire à l'issue d'une campagne électorale au cours de laquelle il a su jouer contre le système, attaquer en permanence, ne jamais reconnaître ses torts. Bref, autant de méthodes apprises, raconte Paris Match, aux côtés d'un avocat sulfureux, Roy Cohn, qu'il a rencontré plus jeune en entrant dans un club privé de Manhattan.
Et de retour à la Maison Blanche, il sait ce qu'il attend, il est préparé, assure le Nouvel Obs.
Tout est compilé, selon l'hebdomadaire, dans les plus de 900 pages du projet 2025, une feuille de route préparée par des cercles de réflexion conservateurs. Au menu donc, d'après le Nouvel Obs, démanteler l'État administratif, défendre la souveraineté et les frontières, remettre la famille au centre de la vie américaine et garantir les droits individuels pour vivre librement. À cela s'ajoute aussi la volonté de mettre fin à la guerre en Ukraine. Et sur ce point, Donald Trump sera meilleur que vous ne le croyez. C'est en tout cas ce que veut penser Boris Johnson. Dans l'Express, l'ancien Premier ministre britannique s'interroge. Donald Trump, avec tout son ego, sa détermination à rendre sa grandeur à l'Amérique, va-t-il laisser la Russie humilier son pays ? Va-t-il inaugurer son mandat en laissant Vladimir Poutine rendre sa grandeur à l'Empire soviétique ? Je ne pense pas, répond Boris Johnson. Pourtant, le point revient sur la façon dont le président russe va tenter d'exploiter le retour de Donald Trump à la Maison Blanche pour étendre son influence mondiale. Washington travaille sur un accord de paix qui pourrait notamment valider les conquêtes russes, soit 20% du territoire de l'Ukraine, et empêcher Kiev d'adhérer à l'OTAN pendant 20 ans. Reste un obstacle, remarque le point, les exigences de Vladimir Poutine qui vont bien au-delà.
Et Donald Trump, qui s'en est par ailleurs pris à une toute autre personnalité au cours de sa campagne, la boxeuse algérienne Iman Khelif.
Au cœur d'une polémique cet été lors des JO de Paris, accusée de ne pas vraiment être une femme, la championne olympique est en couverture de M, le magazine du Monde, qui revient sur le harcèlement qu'elle subit depuis toute petite, sans l'avoir empêchée pour autant de devenir une idole nationale en Algérie, rappelle l'hebdomadaire. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, c'était il y a 100 jours déjà. Le magazine L'Équipe a donc choisi de célébrer ce compte à rebours inversé en se remémorant certains exploits, notamment avec le recordman du monde de saut à la perche, le Suédois Armand Duplantis, qui redescend doucement de ses 6,26 m. Et puis avec cet article sur les bons perdants, ceux qui ont terminé au pied du podium, à la place du con, comme dit L'Équipe. Eux aussi ont été reçus par le président en Italie. Ils ont été salués en Belgique par le comité olympique. Les quatrièmes ont eu une visibilité accrue durant les derniers JO, note le magazine, en expliquant que la commisération tente à céder le pas à une dédramatisation, une approche propre à une génération d'athlètes attentive à son bien-être. Pour certains sportifs, difficile tout de même de savoir s'il faut mieux en rire qu'en pleurer. En ce qui concerne la fin des Jeux, en tout cas, la petite larme de nostalgie n'est jamais bien loin. C'était l'été et les cheminots avaient même décidé de respecter la trêve olympique.
Merci Clotilde Dumais, très bon dimanche à vous.